Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il a choisi son camp, Vincent Delerme. Pour lui, nos vies ordinaires ne le sont pas. Pas besoin d'exploits et d'événements bardés de superlatifs pour que la vie soit une aventure. Les vraies grandes émotions se nichent souvent dans les détails du quotidien qui a sa propre musique. Alors pour défendre cette idée que toute vie peut être intense et noble hors compétition, eh bien Vincent Delerme sort simultanément un album et un film. L'album a pour titre « Panorama ». Ses chansons font vibrer la cigale à Paris jusqu'au 7 décembre. Le film, lui, intitulé « Je sais pas si c'est tout le monde », est un voyage introspectif qui visite les émois du cœur en plan séquence, où des gens connus ou inconnus livrent la chair de ces petits riens si précieux qui les bouleversent et font une vie. Son film est à voir à Paris, tous les dimanches, au cinéma des cinéastes, dans le 18e. Et oui, c'est lui qui l'a voulu ainsi, vous allez voir. On a mille choses à se dire. Et bah, je suis persuadée que ce film va voyager et vivre longtemps. Bienvenue dans cette émission.
Merci, bonjour. Europe 1.
Alors, cher Vincent Delerme, ceux qui vous aiment savent comme vous avez toujours bousculé les codes et les cadres en convoquant le cinéma non seulement dans vos chansons, mais dans vos concerts. Alors voilà, je vous pose d'emblée cette question. Et si ce film était finalement votre plus beau disque ?
En tout cas, c'est vrai qu'en faisant ce film, j'avais pas l'impression d'aller radicalement ailleurs de choses que j'avais pu connaître. J'avais fait un projet qui s'appelait Memory il y a quelques années, qui était un projet de scène.
Il y a 8 ans.
Oui, qui était un spectacle, mais qui était un peu fait sur pas le modèle de ce film, mais de la même manière que là, je me suis dit en faisant le film, finalement, j'avance par séquence de 3 ou 4 minutes et je passe à autre chose, comme dans un spectacle et comme dans la logique de la durée des chansons. Memory, c'était pareil en théâtre. Et puis c'est vrai que quoi qu'on fasse, on n'échappe jamais complètement à qui on est, donc ça se ressemble toujours un petit peu.
On n'échappe jamais complètement à qui on est, et vous êtes celui qui dynamite les frontières, vous adorez ça.
Bon, disons que c'est vrai que c'est intéressant à faire, notamment sur scène d'ailleurs, parce que forcément, au bout d'un moment, quand on a la chance que les gens reviennent aussi vous voir, on a cette petite pression positive de se dire il faut arriver à ce que les gens soient contents et ne regrettent pas d'être venus et ne voient pas la même chose que la fois d'avant. Et comme moi, par exemple, je suis obligé, pour chanter mes chansons, d'être avec un piano qui ne peut pas être un piano droit sur 1h40. Il faut que ce soit donc ce gros paquebot qu'il y a au milieu. À chaque fois, il y a cette idée, bon mince, on a cette figure imposée. Il faut qu'autour de ça, il se passe plein d'autres choses. Et de fil en aiguille, c'est vrai que ça m'a amené à pas avoir tellement peur de remettre en question les choses d'une tournée sur l'autre et par extension aussi sur d'autres projets.
Et puis de vous aventurer, voilà, et expérimenter de nouvelles choses. Alors, votre album et votre film nous disent tous deux que la beauté du monde, la puissance des émotions, l'intensité d'une vie ne se lisent pas forcément dans les grandes envolées, les grandes ambitions, ce qu'on entreprend de grand, mais dans la poésie des petites choses. Vous devez être malheureux dans cette époque qui pousse à une surenchère d'adrénaline, une surenchère de bruit, de compétition. Vous qui prenez justement une vie hors compétition.
Non, parce que ce qui est dans cette surenchère-là, c'est le paysage qu'on nous présente médiatiquement ou dans des reportages, des magazines. Mais la vie qu'ont les gens, leurs grandes émotions restent intimes. Et il n'y a pas de... Enfin, si on parle avec des amis, eux, ils ne sont pas forcément... Enfin, tout le monde n'est pas là-dedans. C'est une sorte de fantasme qu'on a parce qu'on est très connecté potentiellement à la planète entière et que, voilà, en deux clics, a priori, on peut changer 8 fois de pays, mais dans la vie un peu...
Et puis connecté d'une façon particulière quand même, parce que Instagram, par exemple, c'est l'apothéose de la surenchère avec l'exposition de vie qui se veulent toutes plus extraordinaires les unes que les autres.
C'est vrai, mais on peut choisir aussi parce que ça m'a fait découvrir plein de photographes différents. Par contre, effectivement, j'ai pas envie de m'abonner à trop de comptes qui me montrent ce que les gens ont mangé à midi et voilà. Mais on choisit, on peut, sur Instagram on choisit, on peut choisir de pas être sur Twitter, on peut choisir de s'intéresser à des gens qui sont proches de vous ou à des causes humanitaires plutôt que de subir les infos et de voir des posters de Donald Trump en permanence. Enfin, on choisit.
Et voilà, je reçois un homme libre cet après-midi. Alors, revenons à ce film baptisé « Je ne sais pas si c'est tout le monde » et qui vraiment est un ovni poétique, qui fait sens. C'est pas une fiction, c'est pas un documentaire, c'est vraiment hypnotique parce que le film est intelligent, ultra sensible. Des gens inconnus et des gens connus s'expriment, ou plutôt témoignent de façon très intime sur ce qui a fait ou qui fait le sel de leur vie. Et le premier qui apparaît à l'écran, dans un flou un petit peu tremblé, c'est Jean Rochefort. C'est en fait le seul personnage, je dis personnage parce qu'il est un personnage, mais c'est la seule personne qui joue un personnage dans votre film, c'est ça ?
C'est vrai, parce que en fait... C'est une première partie du tournage qu'on avait faite il y a longtemps, il y a presque 5 ans, quand j'avais commencé ce projet. Et après, je me suis éloigné de cette première étape, qui était un premier scénario, qui était...
C'était une fiction,
une vraie
au départ.
Fiction. Moi, j'ai joué un garçon qui rencontrait une fille dans un musée. On assistait à plein d'installations, un peu art contemporain et tout ça. À un moment donné, on poussait une porte et on tombait dans une salle de conférence dans laquelle il y avait Jean Rochefort qui faisait cette conférence. Et puis après, en fait, je me suis
Pourquoi
rendu compte que...
Pourquoi vous avez zappé tout ça ? Soudain, vous avez balayé d'un grand geste l'idée de fiction.
Parce que c'était pas très bon, en fait, ce qu'on était en train de faire. Ça manquait un peu de vérité et j'arrivais pas à obtenir. Mais je voulais d'un côté qu'il y ait une sorte de photographie assez graphique, parce que j'aime bien faire des photos de cette manière-là. Et ça marchait. Mais il y avait quelque chose d'un peu froid. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait sans doute passer par des vrais témoignages pour avancer dans ce film. Et donc, j'ai changé un peu
de
cap. Oui, à l'arrivée, beaucoup.
Vous avez changé totalement de cap.
Exactement. Mais Jean est resté.
Mais Jean est resté. Que... Et Jean, d'ailleurs, paraît-il, vous a pendant des années répété « Bon, maintenant, Vincent, il faut vraiment que vous fassiez un film. »
Oui, il aime bien dire des trucs comme ça. Mais il disait ça, je pense qu'il disait ça à plein de gens. Mais,
vous croyez ?
Mais en tout cas, moi, il me disait ça. C'était très, avec sa grosse voix, évidemment, c'était très impressionnant. Jean est en train de vous dire « Vincent, il faut vraiment... Le cinéma français a besoin de gens comme vous. » Et évidemment, ça faisait, comme beaucoup de choses avec Jean, ça faisait à la fois sourire et ça impressionnait. Et puis, quand j'ai enfin fait le film, je l'ai commencé, je lui ai dit, ça y est Jean, je commence. Je sais que vous avez déclaré que vous arrêtiez votre carrière, mais bon, comme on en a parlé souvent. Et puis du coup, il a accepté de faire cette dernière journée. Oui.
Alors, Vincent Delerme, quand vous avez fait tourner Jean Rochefort, une nuit, dans une rue de Saint-Ouen, filmé en noir et blanc, il savait parfaitement, et tous les techniciens d'ailleurs autour de lui le savaient, que c'était la dernière prise, la toute dernière prise.
Oui, on le savait, il le savait. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure les acteurs peuvent le savoir ça régulièrement. Lui, il avait vraiment décidé parce qu'il avait arrêté. Et là, symboliquement, ça lui plaisait de faire ce... Parce qu'on était quand même assez proches et puis qu'on avait souvent parlé de cinéma, qu'on aimait beaucoup Philippe de Broca, dont on parlait ensemble. Donc on a choisi une rue qui était un peu dans cet esprit-là. Alors, mais c'est vrai que ça doit être assez rare même qu'un acteur sache qu'il est en train de faire sa dernière scène, sa dernière apparition. Et c'était évidemment très troublant, émouvant d'être... D'être là en toute petite équipe et d'applaudir le clap de fin de quelqu'un qui dit c'était la dernière prise de Jean Rochefort. Évidemment que la personne n'a pas dit c'était la dernière prise de sa carrière.
Voilà,
mais on
savait tout le monde savait que c'était la dernière prise de sa vie. Alors, on l'évoquera tout à l'heure, il y a des séquences de poésie délicieuses dans ce film, avec Alain Souchon par exemple, qui nous parle pendant que la neige saupoudre les toits de Paris, ou encore un témoignage très fort de Vincent de Dienne sur la naissance d'une amitié. Mais il y a aussi tous ces anonymes, jeunes ou vieux, qui rêvent ou qui se souviennent. Comment monte-t-on un film pareil ?
Ah bah en fait, c'est drôle. Effectivement, la galerie des personnages, déjà c'était des gens que je connais, de mon entourage.
Tous !
C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont connus et des gens pas connus, parce que c'est comme ça dans ma vie. et après, en fait, le montage s'est fait... Moi, j'ai été piocher des choses comme ça, à droite, à gauche. Et on se disait, on a monté le film sans avoir de plan préétabli, mais à chaque fois qu'on arrivait à la fin d'une séquence, on se disait, bon, maintenant, de quoi on a envie ? Qu'est-ce qu'on va mettre ? On savait qu'à chaque fois, oui, qu'on sortait d'une séquence en noir et blanc, on avait plutôt envie d'en mettre une en couleur, de mettre quelque chose de plutôt drôle après quelque chose qui était mélancolique, et ainsi de suite. Et en fait, finalement, on l'a construit comme on construit un spectacle, parce que quand on fait des concerts, on est dans cette logique-là. On se dit, tiens, après ce titre-là, qu'est-ce qui ferait du bien ? Et on avance comme ça.
Et alors, pour être jusqu'au bout hors compétition, il paraît que c'est vous, Vincent Delerme, qui avez voulu que ce film soit projeté tous les dimanches dans un cinéma tout à fait particulier, le cinéma des cinéastes, à Paris, dans le 18e, 11h du matin.
Oui, après, j'ai pas dit il faut que ce soit le dimanche, 11h du matin. Je voulais que ce soit une fois par semaine et que ce soit une sorte de rendez-vous un peu joyeux et qui ressemble aussi, encore une fois, pardon, je reviens souvent à ça, mais à la logique que moi je connais. C'est-à-dire, quand je fais un concert, je suis qu'à un endroit à la fois et ça pose de problème à personne. Mais en tout cas... Quand on est dans moins de 3 salles à Paris, les entrées ne sont pas comptabilisées et on n'est pas dans les classements. Et ça, c'était quelque chose qui comptait pour moi parce que voilà, je pense qu'il faut lutter un peu contre ça aujourd'hui parce que cette idée que soit ça cartonne, soit ça fait un bide. Non, il y a des choses qui font ni un carton ni un bide. Et voilà, je crois qu'il faut être à cet endroit-là.
Europe 1. Voilà, je reçois un artiste libre, hors compétition cet après-midi. On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Vincent Delerme.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit l'artiste Vincent Delerme à l'occasion d'un nouvel album, le 7e, intitulé Panorama, d'une tournée aussi à travers toute la France et d'un premier film, je ne sais pas si c'est tout le monde, qui recueille des témoignages intimes de gens connus ou moins connus.
Vincent Delerme, depuis toujours vous aimez inventorier. Est-ce que la chanson n'est pas finalement un prétexte pour être le documentaliste de nos vies ?
Bah, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, bon, il y a plein de manières hein, de faire des chansons, mais quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans cette volonté de rendre compte de la vie, de ce que j'avais sous les yeux. C'est aussi pour ça que sur le premier album, il y a beaucoup de descriptions, Fanny Ardant, la photo sur l'étagère, des objets. Parce que ça marche comme ça, finalement, pour aboutir à des sensations, des choses très émotionnelles et des sentiments. Ça passe souvent par des choses très concrètes, et c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de références. Et moi, j'étais dans une phase où j'étais encore jeune et j'avais pas forcément vécu tant de choses que ça. Par contre, ça m'intéressait, les films, de me nourrir de tout ça. Et finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai continué de cette manière-là. Sauf qu'évidemment, ma vie a évolué, donc ça fait d'autres sujets de chansons. Mais c'est sûr que cette idée de documenter les chansons avec ce qu'on vit, elle existe et c'est quelque chose que j'adore.
Mais tout le monde ne sait pas être spectateur de sa vie. Il faut savoir s'en extraire, prendre du chant pour l'observer. C'est ça un artiste ? C'est celui qui observe sa vie ?
Oh, je sais pas, c'est sûr que c'est aussi une question de tempérament parce qu'il y a une volonté de départ. Moi, la mienne, ma volonté de départ, c'est à un moment donné d'organiser du spectacle, vraiment, de faire qu'il y ait des gens dans une salle, de dire quelque chose sur scène et que ces gens-là, soit ça les fasse marrer, soit ça les émeuve, ça se soit touchant. Je voulais faire ça parce que j'avais vu des gens et que j'avais vu faire ça et ça m'avait impressionné. Je trouvais ça magique de faire rire une salle et de l'émouvoir ensuite. Mais après, il faut évidemment trouver le contenu qui vous permet ça. Mais c'est quand même le point de départ. Et puis après, par la suite, oui, j'ai toujours aussi été la personne, même dans mes bandes d'amis, qui a une très bonne mémoire, très aiguë de choses qui ont pu être prononcées dans telle soirée.
Qui s'est écouté.
Oui, mais après, de dire ça, ça donne l'impression d'une forme de grandeur, pas de cœur, mais de... Enfin, savoir écouter, c'est presque... Enfin oui, c'est un peu autosatisfaction, quoi. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Et des fois, ça peut ne pas être très généreux. Ça peut être une curiosité malsaine aussi.
Ça peut aussi, voilà. Mais quand on sait regarder et écouter, finalement, on en arrive à conclure que bon, l'intime, c'est l'universel. C'est pour ça qu'elle marche, vos chansons.
De toute façon, c'est sûr que les gens qui ont travaillé sur l'intime, à commencer par Proust, à qui je ne me compare pas du tout, mais c'est forcément des gens qui sont très dans l'observation. On est très vite, effectivement... étouffé par plein de choses qu'on a à faire qui font que des fois même on se rend même pas compte que votre meilleur ami est en train de se faire plaquer ou en train de faire une dépression. Et ça, c'est sûr que c'est dommage.
En tout cas, vous, Vincent Delerme, vous êtes né dans un nid, j'imagine, propice à l'observation. Un père romancier, une mère illustratrice de littérature jeunesse. Comment vous ont-ils appris à regarder le monde ?
En fait, ça s'est pas tellement passé comme ça. Par contre, eux, c'est vrai que c'est des gens, comme on m'en fait parler souvent, du coup j'ai eu à réfléchir là-dessus alors que j'avais pas forcément une idée claire de ça. Parce que ça, c'est aussi quelque chose à quoi je crois, c'est qu'après coup, on est tenté de schématiser son enfance, de dire...
Alors ne schématisons pas.
C'était comme ci, comme ça, non, mais c'était une ambiance, en fait. C'est une atmosphère, une certaine manière de...
Comme vos chansons.
De mettre en place des atmosphères de soirée, avec des... Je sais pas, en plus eux, ils étaient enseignants, donc ils avaient toujours des élèves à eux ou des anciens élèves qui revenaient, qui faisaient des clubs, ils leur apprenaient le dessin, la guitare, il y avait un truc très associatif comme ça, très dans l'air de cette époque-là. Mais on peut rigoler un peu avec ça, mais c'est hyper fort en fait, justement, de prendre du temps pour faire toutes ces choses. Et on est toujours payé en retour, parce que moi je me souviens quand j'étais enfant, je voyais donc c'était des ados en l'occurrence qui venaient, qui étaient des élèves qu'ils avaient en classe et puis à qui ils apprenaient d'autres trucs. Et ils me disaient, mais tu sais, ta maman, ton papa, c'est mon prof préféré, il a changé ma vie. C'était effectivement très fort.
Mais en fait, parce qu'ils étaient tous dehors d'enseignants. Oui. C'est-à-dire que votre père s'est mis à écrire plutôt sur le tard.
Non, il a écrit tôt, mais il a été publié sur le tard. Ce qui n'est pas la même idée. Mais par contre, très jeune, ils avaient envie tous les deux de ça. Mais c'est sûr que c'était ça qui l'emportait pour moi. C'est que c'était des profs préférés. Des gens, des jeunes personnes. C'était pas des écrivains, c'était pas des gens qui me disaient il faut que tu lises ou que tu t'intéresses à la culture ou même à la chanson. Mais de fait, on allait voir pas mal de spectacles et c'était très vivant.
C'est pas mal d'avoir pour parents les profs préférés.
Exactement.
Justement de ses potes.
Ah ouais,
c'est la classe. S'il fallait résumer en fait la philosophie de votre père, Philippe Delerme, donc, on pourrait parler de ces petits riens qui font l'extase, d'où d'ailleurs son plus grand succès de librairie, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Vous l'avez adopté très tôt, en fait, cette philosophie de la vie, vous, dès l'adolescence, ça vous est apparu comme ça ?
Ouais, lui se défend pas mal du fait que ce soit une philosophie, et je peux confirmer que ça n'en est pas une, parce que c'est plus une aptitude, effectivement, à recenser des choses, mais sans dire c'est ça qu'il faut faire, ou sans donner de conseils là-dessus. Après,
Alors parlons de cette aptitude.
C'est des choses qui sont effectivement... c'est assez curieux, parce que ça, c'est un truc qu'on s'est toujours dit, plutôt en discutant avec mon père, pas tellement... J'étais pas là à lire ses livres et à derrière écrire des chansons. J'étais là à partager du temps et des pensées et des discussions avec mes parents. Et après, sûrement que j'ai pris beaucoup de choses de là. mais ça s'est passé plutôt de cette manière-là. Et ça, on a toujours été frappé par ce truc-là, de se dire que c'est drôle que tout ce qui se rapporte à l'individu, à nos vies, à nos vraies vies, souvent prennent des tournures quand on en parle. Le mot petit arrive très vite. Des petites choses. Pour moi, tomber amoureux, perdre quelqu'un, c'est pas du tout des petites choses par rapport à jouer en bourse et à prendre des jets. C'est beaucoup plus gros et beaucoup plus immense.
À quoi on renonce, Vincent Delerme, et à quoi on ne renonce pas quand on est convaincu que le bonheur se cache dans les détails?
Moi, j'ai pas vraiment renoncé ou pas renoncé à des choses à cause de l'idée du bonheur. C'était plus par rapport à une forme d'idée que j'avais envie de faire ça pendant longtemps, et qu'assez tôt, je me suis dit que plus j'arrivais à être proche de ce que je voulais vraiment faire sans déjouer, plus je pourrais le faire longtemps, justement, parce que j'aurais pas de dégoût acquis, parce qu'on m'aurait obligé à un moment donné à faire quelque chose dont j'aurais pas eu envie, ou vous voyez, ce genre d'idée.
On trouve tout de suite Vincent Delerme.
Europe 1. 15h23, la suite de N'y a pas qu'une vie dans la vie. La conversation d'Isabelle Morizet avec son invité se poursuit jusqu'à 16h. Un invité dont on retrace le parcours. Et cet après-midi, il s'agit de Vincent Delerme.
Alors, cher Vincent Delerme, à l'époque où, en lettres modernes, à Rouen, vous avez consacré votre mémoire de maîtrise à François Truffaut sur le thème « En quoi le cinéma de Truffaut est-il littéraire ?», vous l'imaginez comment, votre vie d'après ?
Ah, déjà, à ce moment-là, elle se dessinait un tout petit peu, enfin, en tout cas, dans mes rêves, sans doute, mais parce que c'est vraiment l'époque où j'avais intégré une troupe de théâtre amateur à Rouen. C'était une troupe qui était sur la fac de lettres, avec des gens qui étaient hyper bons en théâtre. C'était un peu un coup de chance, parce que c'était une troupe où tout le monde pouvait entrer. Il n'y avait pas de casting, enfin, il n'y avait pas d'audition pour entrer. Donc, il y a une sorte de génération spontanée de gens qui ont tous continué à faire du théâtre par la suite, notamment Emmanuel Noblet qui a joué l'adaptation de Réparer les vivants pendant 2-3 ans, qui a obtenu le Molière pour ce spectacle. Ils ont tous fait le Conservatoire de Rouen. Et voilà, donc il y avait une sorte d'énergie qui était géniale parce qu'on jouait des spectacles. Le lendemain, on allait en cours. En cours, il y avait des gens assis à côté de nous qui disaient « En fait, je suis venu vous voir hier soir, c'était super. » Et du coup, c'était une impression qui était très, très étrange. Et le spectacle était donc très intégré déjà à ma vie à ce moment-là. Je faisais des chansons dans mon coin, mais dans cette bande-là, enfin, pas vraiment la bande au sens strict, mais un peu pas loin, quoi. Il y avait un autre chanteur qui, lui, avait l'attitude inverse de la mienne, qui montrait tout le temps ses chansons au fur et à mesure. Et il y avait des filles qui disaient « Ouais, j'étais là à cette soirée où il a trouvé l'intro de la chanson. » Et je me disais « Non, mais ça va pas du tout. » Mais je voyais bien qu'il y avait un truc il y avait des gens qui étaient un peu comme ça, à vouloir montrer, qu'ils avaient toujours leur guitare sur eux. Et moi, j'ai fait tout dans mon coin, dans mon coin, dans mon coin, jusqu'au moment où je me suis dit « Bon, là, maintenant, je pense que je peux faire des spectacles d'une heure et demie. » Et j'ai vraiment mis ça de côté. Voilà.
Alors, le tout premier concert, dans une salle minuscule, paraît-il, au cœur de la cité universitaire, il vous a laissé quel souvenir?
C'était fort parce que c'était justement avec Emmanuel Noblet, dont on parlait, qui a eu, donc c'est quand même dingue, parce que j'étais éclairé, c'est lui qui faisait les lumières,
chic,
par quelqu'un qui a eu un Molière quelques années après. Mais en fait, c'était, voilà, il y avait une très très petite garde rapprochée d'amis qui aimaient bien mes chansons et qui m'ont permis de faire ce spectacle-là. J'avais un autre ami qui faisait des ombres chinoises pendant le spectacle, et les gens, j'étais un peu connu dans Rouen grâce à ça.
Voilà, et puis en dehors de Rouen, parce que l'année suivante, Vincent Delerme, vous êtes resté plusieurs semaines à l'affiche du théâtre parisien Les Déchargeurs. Vous aviez donc fait votre choix de vie. Votre maîtrise de lettres était en fait une route empruntée pour arriver à la chanson.
Oui, mais déjà, le moment où j'ai travaillé sur Truffaut, c'était un peu une astuce pour...
C'était déjà presque un prétexte.
Disons que là, c'était super parce que ça a justifié que pendant un an, je fasse que manger des films de Truffaut en continu, en essayant de trouver qu'est-ce qui était littéraire, qu'est-ce qui avait la forme écrite dans les films, toutes les situations qui étaient démêlées par des lettres, les personnages qui écrivaient des bouquins dans ces films, les adaptations littéraires qu'il avait faites. Enfin, c'était vraiment passionnant et en même temps, ça me laissait beaucoup de temps pour être chez moi.
Il a bien été reçu, ce mémoire de maîtrise.
Mais oui, j'ai eu mention très bien, Isabelle.
Mention très bien.
Je suis content que vous m'en fassiez parler parce que souvent on m'en parle, mais évidemment, je vais pas. C'est pas la première chose que je vais dire, mais j'étais très content. Non, j'avais bossé ça assez sérieusement, mais c'est sûr que oui, j'avais très tôt. Enfin, quand on en parle avec des gens qui étaient dans cette bande d'amis là. C'est le truc qu'ils disent toujours sur moi, que ça les a marqués, que très tôt, je savais un peu ce que je voulais faire comme type de spectacle et tout ça.
Alors, on continue de dérouler le fil. Il faut nous raconter absolument, Vincent Delerme, comment vous avez jeté votre dévolu sur le comédien François Morel qui, finalement, a joué un peu, malgré lui, le rôle de l'impresario.
Il savait qu'il avait cette petite pouvoir de me faire passer à la radio une première fois.
Voilà,
on va dire ça comme ça. Et en fait, quand on commence, souvent, on se dit ça, que des gens qu'on a aimés, on imagine que forcément, comme on les a aimés, ils vont vous aimer aussi en retour. C'est un peu enfantine.
Et là, ça a fonctionné. Et
là, ça a fonctionné avec François. Ouais.
C'est-à-dire que vous lui avez envoyé, en fait, des enregistrements de vos titres.
Une maquette, il y avait 8 chansons.
Et une petite lettre, troussée de quelle façon ?
Je ne saurais même pas vous dire. Par contre, je me souviens très bien de son message à lui sur mon répondeur à Rouen. Il disait « Cher Vincent Delerme, je ne vous connais pas, mais je vous aime beaucoup. » Et puis après, je ne sais plus ce qu'il disait, mais il me proposait de passer dans une émission. Oui.
Mais alors, les jeunes artistes en devenir pensent assez rarement ce genre de connexion en dehors des circuits officiels et baliser des maisons de disques ou des producteurs. Ils devraient. S'ils y pensent de plus en plus, vous en recevez beaucoup
à chaque concert,
de ce genre de demandes.
On a 3 maquettes. Après les concerts, on a toujours 2-3 personnes qui vous donnent leurs chansons. Oui.
C'est vrai.
Ah, oui, oui.
Alors, j'imagine, vous, forcément, vous les écoutez, toutes les maquettes
sûr,
qu'on vous
sûr.
Donne, et vous leur répondez.
Non, bien sûr que non. Parce qu'il y a plein de fois où c'est pas très bon. Et en fait, il vaut mieux que les gens pensent que vous ne les avez pas écoutés. Que... En fait, tout le monde se dit, non, mais si c'est pas bon, il faut me le dire. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Parce que les fois où je me suis aventuré à dire, je crois que ça va pas... vous pouvez pas dire ça à quelqu'un. Moi, en plus,
mais vous est jamais arrivé
d'aimer des choses.
Oui, voilà.
Sûr,
et
ça,
là,
c'est autre chose.
D'être heureux,
non,
d'annoncer que.
Je vous répondais sur
que...
le fait de répondre toujours. Je réponds pas toujours. Mais après, par contre, je crois que les chanteurs sont hyper mal placés pour juger les chansons, parce que. Mais même avec mes amis, enfin, on en parle. Enfin, on a des discussions avec Albin de la Simone ou avec des gens comme ça. C'est vraiment pas simple parce que. Quand on entend une chanson, on se dit forcément, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais écrit cette chose-là de cette manière-là ? Et c'est difficile d'avoir ce recul nécessaire-là. Et puis la chanson aussi, c'est peut-être que c'est moins facile à retravailler que d'autres choses, dans la mesure où il y a une sorte de charme qui est là ou qui n'est pas là.
Mmh. Et, il y a une instantanéité.
C'est difficile de dire, ton truc, ce serait super charmant si tu changeais 3 mots et que l'arrangement, c'était ça plutôt que ça. Non, ce n'est pas comme ça, c'est un truc
un
plus
livre.
Global.
Il y a 300 pages, une chanson, ça dure 2 minutes 45, 3 minutes.
Ouais, donc ça vous plaît d'emblée, ou alors pas, c'est un peu violent à dire, mais c'est comme ça. Les chansons, ça fonctionne comme ça. Et de même que c'est impossible de convaincre quelqu'un qui n'aime pas une de vos chansons, qu'elle est géniale. Non, si lui, de manière... comment dire, très intuitive,
épidermique,
exactement,
à la fois.
Épidermique, c'est ça le mot que je cherchais.
Voilà.
Si ça lui revient pas, ça lui revient pas.
Vincent,
comme,
c'est comme l'amour.
Exactement.
Ça ne se commence
pas. Mais c'est
pas.
Très affectif, très, très comme ça, la chanson.
Europe 1.
Discussion à bâton rompu, en compagnie de Vincent Delerme, cet après-midi. C'est épatant, alors on se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Et Vincent Delerme est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi jusqu'à 16h sur Europe 1.
Vincent Delerme sort son premier film et son 7e album. Son film intitulé « Je sais pas si c'est tout le monde » est projeté au cinéma des cinéastes à Paris. Son album, baptisé « Panorama », enchantera la Cigale à Paris jusqu'au 7 décembre. Et puis ensuite, il y aura une grande tournée à travers toute la France. Et oui, Vincent Delerme s'offre la Cigale pendant plus d'un mois. C'est rare ça quand même, c'est long, c'est formidable.
En fait, en vrai, on fait 3 semaines, mais c'est parce qu'il y a des trous dans le planning. Mais on fait trois séries de semaines, ce qui est déjà...
Ce garçon est honnête, il dit tout toujours.
Oui, mais déjà, en plus, pour moi, c'est complètement fou, parce que faire 3 semaines de Cigale, c'est vrai que c'est vraiment une chance inouïe. C'est une salle que j'adore. Et en plus, c'est vrai que c'est une salle, j'ai une histoire très particulière avec cette salle.
Parce que
mon arrière-grand-mère était ouvreuse quand c'était un cinéma, là-bas. Donc quand j'avais mon grand-père qui était encore en vie... Il venait me voir en concert, il s'asseyait au même endroit où il attendait sa mère quand il était enfant, qu'elle ait fini son service. Et il m'a toujours parlé, quand j'étais enfant, de la Cigale, de ses souvenirs. Il y avait le Cirque Medrano en face. Et les gens de la Cigale et de Medrano s'échangeaient des tickets d'entrée. Donc lui, il passait beaucoup de temps au cirque aussi. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui incarne Paris. Moi, je ne suis pas parisien au départ. Et j'ai toujours rêvé de ça, toujours entendu ce mot un peu magique de la Cigale. Et voilà.
Il va y avoir de belles ondes. Alors, il y a d'ailleurs, parce que ça a commencé.
Oui, absolument.
Cher Vincent, votre grand ami Alain Souchon dit que les chanteurs ont trop souvent besoin de plaire. Le vrai danger pour un artiste, c'est de vouloir plaire.
C'est sûr que, vraiment dans la chanson, il y a cette idée aussi un peu d'une séduction comme ça, un peu globale, dont on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Est-ce que c'est vos chansons ? Déjà, les chansons en elles-mêmes, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Est-ce que c'est le texte, l'arrangement ? Vous voyez, c'est déjà un mélange, la chanson. Et en plus, après, nous, il y a notre attitude, la manière de se comporter quand on fait un entretien, quand on est sur scène. En tout cas, ce qui fait que les gens durent, je trouve, c'est, c'est rarement le talent, c'est plus un tempérament.
C'est-à-dire que c'est incroyable ce que vous dites là.
Oui.
Ce qui fait que les gens durs, c'est rarement le talent. C'est plus.
Bah oui, parce que tout le monde a un talent. Enfin, je veux dire, après c'est du travail et puis, mais c'est surtout un truc de tempérament parce qu'il faut accepter qu'il y ait des moments où ça rigole beaucoup moins. Donc, si vous voulez n'être que surapplaudi et être tout le temps dans le top 3 des ventes, il va y avoir plein de mauvais moments. Pour vous, parce qu'il y en aura très peu de bons. Mais donc, c'est pour ça que je pense que l'idée de tempérament, elle compte beaucoup. Oui.
Ce milieu de la musique, qui de l'extérieur ressemble à un temple barricadé, impossible à pénétrer, vous le fréquentez ou très peu ?
Oui et non, je fréquente beaucoup, c'est des familles un peu, mais moi j'ai voulu être sur une maison de disque qui s'appelle Tôt ou Tard, qui est un
petite maison de disque.
Ouais, qui est une grosse petite maison de disque maintenant parce qu'ils sont, c'est un label indépendant, mais ils ont beaucoup d'artistes qui sont très différents et qui fonctionnent, comme Vianney, comme Chaka Ponk, comme Yael Naïm. Et moi, quand j'ai commencé, je voulais être là-bas parce qu'il y avait beaucoup d'artistes que j'avais admirés qui étaient dans ce label-là, qui avaient un équilibre assez familial et en même temps, quand même, une sorte d'ambition artistique très forte. Donc, c'était Thomas Fersen, Dick Hanegaard, ces gens-là, Lassa, la chanteuse Lassa. Et j'étais très fier d'être dans cette maison quand j'ai commencé et maintenant, je suis le plus ancien de ce label parce que je n'ai jamais changé de maison de disque.
On parle de filiation. En fait, par exemple, Benabar et Sanseverino, ils sont un petit peu les enfants de William Scheller. Vous, votre filiation, vous avez parlé de Thomas Fersen, mais votre filiation, elle se tisse vraiment du côté de Souchon, c'est-à-dire la légèreté grave et la gravité légère, c'est ça ?
Ah, mais moi j'étais assez enfant de Scheller aussi parce que avec Jeanne Chéral, on a beaucoup été nourri par l'album en public de William Scheller qui est du milieu des années 90, en fait, où il interprétait toutes ses chansons et qui est connu pour comporter un homme heureux à la fin du disque. Et ça nous a vraiment impressionnés. On a acheté les soundbooks de ça. Et après, c'est un puzzle, les influences qu'on a. Moi, j'ai toujours adoré Alain Souchon, mais par exemple, finalement, c'est pas quelqu'un qui m'a tant que ça influencé dans mes chansons. Je pense être plus influencé par Yves Simon, ouais, par Scheller, par des attitudes, des trucs de Barbara.
Voilà. Et pourtant, on ne retrouve pas dans votre premier film, je sais pas si c'est Tout le monde, c'est son titre, ouais, on ne retrouve pas Yves Simon. On a bien Souchon,
oui, c'est vrai,
qui
c'est
le traverse, ce film, de façon aussi magnifique que pudique, avec plusieurs séquences inattendu. Donc, en fait, ce film, il répond presque à la chanson de Souchon, Foule sentimentale. Le titre déjà que vous avez choisi, je ne sais pas si c'est Tout le monde. Si, justement, ce film, c'est Tout le monde.
Bah, en tout cas, c'est souvent on fait des titres un peu à l'envers comme ça, parce qu'évidemment, quand on fait des chansons et quand on fait un film comme ça, c'est ce qu'on espère, que les gens, en parlant de choses très très perso, très intimes, vont se retrouver là-dedans et on se dit, mais est-ce que les autres, ça leur fait pareil aussi ? C'est un des sujets du film, ça. Et là, dans le film, en l'occurrence, ça part des témoignages de tous ces gens. Je suis certain, c'est plus facile pour moi d'en parler.
De témoignages et de réactions aussi, parce que il y a un moment où vous collez un casque sur les oreilles de Souchon, un petit peu comme pour le tenir prisonnier, pendant que vous allez lui avouer des choses très fortes et très belles. J'imagine que forcément ça a été un one shot, parce que vous filmez ses réactions, c'est presque une déclaration d'amour, allez, disons-le. J'aimerais bien savoir comment il a réagi après cette scène, parce que je crois savoir que lui, il voulait traverser votre film simplement déguisé en agent de circulation qui aidait vos enfants justement à traverser une rue. Et puis tout à coup, vous le retenez prisonnier et vous le filmez alors que vous lui dites presque des mots d'amour.
À chaque fois que je parlais du film, il dit « mais moi je veux le faire, je veux faire traverser tes deux enfants en flic et tout ça ». À chaque fois, je dis « non, Alain, si on doit faire une scène, il faut que ce soit un truc qui compte pour moi quand même, parce que voilà ». Non pas que ça compte pas d'avoir un flic qui fait traverser deux enfants, mais voilà. Et là, du coup, effectivement, j'avais eu cette idée-là parce que ça m'intéressait. On parlait du fait des choses qui peuvent faire écho chez des gens. En l'occurrence, évidemment que ça peut pas faire écho chez des gens. Le fait de se dire, tiens, quelqu'un vient me parler de mes chansons, puisque les gens n'écrivent pas. Mais par contre, c'est arrivé à tout le monde, je pense, de vouloir transmettre à un chanteur ou ou à quelqu'un en général qu'on aime bien, de le rencontrer la personne et de lui dire quelque chose et de se sentir un peu bête en lui disant, en se disant, ah, pourquoi j'ai dit ça, ça n'a aucun intérêt, alors qu'il y a tellement de trucs à dire. Et Alain, j'ai souvent vu des gens l'aborder dans la rue, lui parler. Et moi, j'ai connu ça un tout petit peu aussi, même si c'est moins qu'Alain. Évidemment, des gens qui viennent vous voir et on sent des fois dans leur regard qu'ils se disent, mais pourquoi je suis en train de lui dire ça? Et même des fois, ils le formulent, ils disent, bon, allez, on doit vous le dire tout le temps, ça doit vous emmerder qu'on vous dise ça, enfin, vous devez en avoir assez. Alors qu'en fait, évidemment que ça fait toujours un effet fort, surtout que c'est souvent des témoignages très concrets avec des anecdotes, avec des gens qui vous disent, ça fait la durée de mon trajet, j'ai écouté cette chanson-là quand j'ai rencontré mon amoureuse, enfin,
ça, c'est des choses très fortes.
Oui, parce que les chansons, elles vont partout. Déjà, elles peuvent être dans une cuisine, comme dans une voiture, et donc elles sont très souvent liées à des phases de vie plus qu'aucun autre genre, parce qu'un film, on le regardera toujours soit dans une salle de cinéma, soit assis sur un canapé, soit, enfin, et il peut pas se passer 12 000 trucs en même temps qu'on regarde un film, alors qu'une chanson, si. On peut embrasser beaucoup en écoutant une chanson, on peut faire l'amour en écoutant une chanson.
On peut aussi embrasser au cinéma, hein, oui, dans l'obscurité propice
oui,
de la salle.
Faire l'amour déjà moins. et je sais pas, ouais, et c'est tellement. Par exemple, de temps en temps, je fais des photos aussi un peu, et des fois, j'ai eu à faire des expositions.
Vous faites des expos carrément.
Et bah après une exposition, tout ce que peuvent vous dire les gens, c'est j'ai bien aimé cette photo-là, celle-là, je la trouve belle. Et une fois qu'on a dit ça, c'est difficile de parler plus de ça. Alors que dans les chansons, il y a quand même la possibilité de dire quelque chose de plus pointu, de plus personnel, et de se faire exister soi-même à travers la chanson de quelqu'un d'autre en disant bah, moi aussi, cette sensation que vous décrivez quand vous dites je repars de chez cette fille habillée comme hier, j'ai connu ça, ce truc-là, de se retrouver dans la rue le lendemain d'une nuit comme ça chez quelqu'un. Et ça, c'est sûr que c'est incomparable, les chansons, pour ça.
C'est incomparable, les chansons. Mais juste, question sur les photos, puisque vous faites des expos dans les galeries. Vous avez le temps en ce moment de photographier ? Vous avez toujours un appareil dans une poche ? Ou c'est très ponctuel ?
Non, c'est pas tellement ponctuel. C'est assez permanent. Mais par contre, c'est effectivement, en ce moment, pas beaucoup, parce que c'est une phase qui est très tournée vers soi, en fait. La promo, le début de le lancement d'un album,
alors que la photo,
concerts.
C'est tournée justement vers l'extérieur.
Donc, donc en ce moment, c'est une phase un peu à l'arrêt.
On retrouve tout de suite Vincent Delerme.
Europe 1. Il est 15h42, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec son invité. Aujourd'hui, Vincent Delerme, en tournée à travers toute la France, La Cigale à Paris jusqu'au 7 décembre, et puis un petit peu plus tard dans le temps, on notera par exemple le 15 avril à Dijon, ou encore le 19 mai à Clermont-Ferrand.
Ces chansons nous prouvent que l'intime est universel. Je reçois Vincent Delerme, dont le nouvel album a pour titre Panorama. Vincent Delerme, aujourd'hui, face au rap et aux musiques urbaines, la chanson française représente sur le marché et en radio une niche presque confidentielle. Vous ne changez pas, mais le monde, lui, change. Honnêtement, est-ce que vous assistez de façon sereine à tous ces bouleversements ?
Alors là, oui, complètement.
Vraiment ?
Oui, parce que la chanson, ça a toujours été... C'est un truc, il ne faut pas s'inquiéter trop pour les chansons, parce que les gens, ils aiment bien les chansons. Ça disparaît un temps, ça revient. Enfin, vous voyez, c'est un
même
peu...
si on entend de moins en moins
mais
de chansons françaises.
Ça a existé plein de fois.
Radio.
Dans les années 90, il y avait très peu de chansons. Il y avait une variété très, très FM, formatée, plein de comédies musicales. Et ça revient, et puis ça repart. Et puis, effectivement, c'est la chanson urbaine en ce moment beaucoup. Mais vraiment, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et en tout cas, c'est surtout pas aux chanteurs de s'inquiéter pour ça, parce que c'est vraiment pas un moteur, l'inquiétude, pour écrire des choses qui vont dans le bon sens.
Au début de l'été, précisément le 20 juin de cette année, on vous a remis, Vincent Delerme, un prix qui sonne comme un couronnement. On vous a remis la grande médaille de la chanson française. Alors comment et où ça se déroule ? Et qui décide de cet honneur ? Ce sont les Immortels, c'est ça ?
Ah oui, je crois que c'est l'Académie française, c'est ça dont vous parlez.
Oui,
absolument. Mais en fait, la cérémonie est très tard par rapport. C'est au mois de décembre, je crois. Alors qu'effectivement, c'était avant l'été. Et oui, c'est drôle, ces trucs-là. Mais écoutez,
Non, mais c'est pas anodin, tout de même. Être honoré par les Immortels pour contribuer au rayonnement de la langue de Molière, ça rajoute quelques responsabilités, non, pour la suite du chemin. Faut pas faire de sortie de route après.
Je suis pas un bon client pour ces trucs-là parce que, pardon, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais pour moi, c'est toujours moins important que quelqu'un dans la rue qui vient vous parler. Là, c'est très abstrait. Est-ce que les académiciens de l'Académie française ont tous écouté mes disques en boucle
Vous n'en êtes
avant
pas sûr
de voter ? J'ai un petit doute.
Mais alors, vous allez le prononcer dans quel état, ce discours ? Sous la coupole ?
Écoutez, c'est vraiment. Je suis un peu pris au dépourvu là-dessus parce que comme je sais que ça fait de l'effet aux gens, ce genre de choses, alors qu'en fait c'est quand même très un petit peu hasardeux, enfin je m'enlise un peu dans mon truc parce que je vais être obligé de faire un discours dans un mois là-dessus, mais en fait on est mal habitué en chanson parce que les retours qu'on a sont très concrets. On fait des concerts et on voit des gens après les spectacles qui viennent vous parler, on voit physiquement sur eux, sur leur visage, qu'ils sont rentrés dans le concert, qu'ils ont été touchés, peut-être qu'ils ont été émus à un moment donné. Et alors, du coup, c'est ça qui est fou, quoi, qui nous fait de l'effet. Et les trucs un peu abstraits, ces choses-là, ça fait plaisir dans l'absolu, mais ça reste abstrait. Et comme on a la chance avec la chanson d'être dans quelque chose de très peu abstrait, forcément, si vous me demandez de choisir, je choisirais toujours des choses plus concrètes.
Ah non, mais j'entends bien, mais j'ai l'impression que votre pudeur naturelle vous... vous, ça a boudé votre plaisir. Alors, je poursuis.
Mais je crois... Là, non, en fait, vous devriez interroger mon entourage là-dessus, mais...
Persuadée que vous répondez très honnêtement.
Ce serait très cohérent.
Mais Vincent Delerme, bon, on sait que votre imaginaire vous porte bien au-delà des terres de la chanson, même si c'est pour le rayonnement de la chanson française qu'on va vous décorer sous la coupole en décembre. Donc, en fait, vous mêlez tous les arts. Depuis le fameux spectacle Memory, que vous avez donné il y a 8 ans, vous invitez sur scène aussi bien le cinéma, le théâtre, la danse, les photos, les animations sont débridées, vous faites des duos virtuels, vous redécoupez d'une manière inhabituelle le temps, vous poussez tous les cadres. Mais en fait, quel art vous aimeriez pratiquer un tout petit peu mieux? Quel est celui dans lequel vous aimeriez vous aventurer en maîtrisant davantage, en contrôlant davantage?
C'est vrai que le ressort de tout ça, souvent, après, quand on utilise des biais, des médias différents pour faire passer les choses, c'est normal de recenser ça, mais vu de mon point de vue, ça part pas comme ça. Ça part d'une sensation, d'une émotion, qui est quelque chose qui est dans l'air, dont moi, je dois rendre compte. Comme un ouvrier, d'une certaine manière, c'est-à-dire, c'est mon métier de choper un truc qui est là, qui est un sentiment très intense, qui est un sentiment amoureux, qui est un climat, une atmosphère. Et comment je fais pour le présenter et que les gens se disent « Ah, mais je vois exactement ce qu'il veut dire ». Et donc, des fois, c'est des chansons... La plupart du temps, c'est des chansons qui sont le mieux pour ça. Des fois, il se trouve que je me dis « Non, ça, il faudrait quand même filmer quelque chose pour en rendre compte ». Mais il n'y a pas eu de fois où je me suis dit « Ah, je suis meilleur là que là ». Moi, je trouve que le meilleur moyen pour tout ça, c'est la chanson. Ça reste, c'est pour ça que c'est mon centre, en fait. Et de temps en temps, j'ai besoin quand même d'un peu de la photo, un peu de la vidéo ou des choses comme ça, ou d'une attitude sur scène pour faire exister.
Dans les mois qui viennent, vous allez passer beaucoup de temps sur scène. D'abord à La Cigale, à Paris jusqu'au 7 décembre, puis en tournée. Si parmi tous les moments hors normes du spectacle, Vincent Delerme, je vous demande d'en choisir un que vous savourez particulièrement, vous allez me parler duquel ?
Alors en fait, il y a toujours dans les spectacles, comme il se passe beaucoup de trucs en plus des chansons, il y a toujours un moment ou deux qui sont des moments où vous n'avez plus qu'à jouer du piano, et puis je sais pas, c'est sur la fin d'une chanson, une reprise musicale, et il y a un truc qui se passe visuellement qui fait de l'effet aux gens. Bon, là en l'occurrence, je dirais, il y a Albin de la Simone dans le spectacle qui raconte une histoire drôle, qui est donc un ami, chanteur à moi, qui est très bon pour raconter des histoires drôles, et du coup, comme il fallait une sorte de récréation d'un moment un peu où tout le monde se détend au milieu du spectacle, je lui ai demandé de le faire. Donc tous les soirs, il y a Albin qui vient raconter sa blague filmée. Et ça, c'est un moment évidemment qui est super pour
toujours
moi.
Toujours la même blague alors.
Oui, bah oui. Peut-être en deuxième partie de tournée, on changera la blague, il faudra le refilmer.
Bon, vous avez deux garçons, l'un en 5e, l'autre en CM1. Le soir, la majorité des papas de leurs camarades sont à la maison, pendant que vous êtes sur scène. Comment ils ont intégré ça, vos garçons? Comment ils le vivent?
Moi, je suis très très présent chez moi en fait. Parce qu'en fait, quand j'ai pas de spectacle, je suis toujours là à 18-19h. Genre, j'ai un pacte
avec
eux. Sauf
que là, dans les mois qui viennent, vous allez rarement
être
là. Oui,
mais non, parce que
je
fais pas. Vous voyez, là, j'ai fait Les Cigales, j'en fais 15. Donc 15 sur une période, enfin sur cet automne-hiver. Mais non, en fait, finalement, je pense être plus là que quelqu'un qui serait là tous les soirs, mais qui arrive à 21h20 tous les soirs, juste avant qu'il se couche. C'est un truc qui. C'est une sorte de pacte qu'on a ensemble. C'est que tout ce que je peux. Éviter de faire le soir, j'évite de le faire. Donc ça
mais
fait
alors,
que je sors très peu.
Par
soir.
Exemple, ils dorment quand vous rentrez vers 2h
du
matin
oui, là,
après un concert de La Cigale.
Oui.
Ils ne vous attendent pas. Ils n'attendent pas que leur père leur raconte ce qu'il
a
vécu.
Ça, je vous confirme qu'ils s'en foutent complètement. Ils n'attendent pas du tout que je leur raconte. Mais ils sont venus voir le spectacle. Donc ça, c'est sympa.
Comment on chante toujours... devant ces garçons quand ils sont dans la salle?
Oh, c'est en fin de concert qu'on est un peu dans cette pensée-là. Pendant le reste du spectacle, j'essaie de pas trop y penser, mais à la fin, et en plus il y a un titre qui s'appelle Photographie qui est à la fin du dernier album et qui évoque comme ça une scène avec les miens, comme ça. Donc forcément, c'est un moment un peu émouvant.
On retrouve tout de suite Vincent Delerme.
Europe 1. Il est 15h53, vous écoutez N'y a pas qu'une vie dans la vie, comme chaque week-end de 15h à 16h sur Europe 1. Cet après-midi, Isabelle Morizet s'entretient avec Vincent Delerme à l'occasion de la sortie d'un film, d'un album et d'une tournée.
Vincent Delerme s'offre La Cigale à Paris jusqu'au 7 décembre avant de partir en tournée avec son nouvel album intitulé Panorama. Et son premier film, qui a pour titre Je sais pas si c'est tout le monde, nous propose Un voyage immobile au cœur des souvenirs, en convoquant aussi bien des inconnus que des gens connus, comme par exemple Jean Rochefort, Vincent De Dienne ou Alain Souchon. Tiens d'ailleurs, au fait, Souchon, Vincent Delerme. Souchon, il n'a pas de portable. Il n'a pas de téléphone portable. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Pourtant, il paraît que vous vous parlez beaucoup au téléphone. C'est donc Souchon qui toujours vous appelle, vous ? Vous ne pouvez jamais le joindre ?
Mais vous savez qu'un téléphone fixe, on peut le joindre. Hein.
Non, mais parce qu'il paraît qu'il y a un code entre vous pour que vous sachiez que l'appel vient de lui, c'est vrai ? Je ne vais pas vous demander le code. Hein. Mais comme il n'y a pas de portable, il ne peut pas avoir un nom qui s'affiche, alors il paraît que vous avez mis au point un petit dispositif.
Ce qui est particulier, quand les gens n'ont pas de portable, on n'est pas habitué à ça. C'est qu'il y a plein de fois dans la vie où maintenant, juste pour dire à quelqu'un qu'on a entendu, en l'occurrence... qu'on a vu une photo de lui ou qu'on l'a entendu sa voix, on envoie un texto et il n'y a pas forcément besoin de s'appeler pour ça. Donc ça, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un fonctionnement effectivement qui est à l'ancienne là-dessus, mais que, en fait, c'est la seule personne que je connaisse comme ça. Donc heureusement, c'est Alain Souchon, du coup, on est quand même assez prêt à jouer le jeu.
Bon, Souchon résiste au portable. Vous, Vincent Delerme, vous résistez à quoi dans la course du monde ?
C'est vrai que je suis un peu... Peut-être, j'imagine, même un peu pénible, même médiatiquement, des fois, pour les médias qui m'interviewent, parce que je ramène toujours beaucoup les choses à ce que je fais, aux spectacles et aux albums, aux chansons. Et j'aime beaucoup cette idée aussi de rester sur sa ligne, de ne pas intervenir à tort à travers sur plein de sujets différents. Donc, par exemple, quand vous me dites ça, forcément, ça m'évoque, je ne sais pas, un certain type de salle, par exemple, que je n'ai jamais faite. Je n'ai jamais fait de Zénith dans ma vie, comme chanteur. Je voulais
c'est
pas
un
en faire.
Choix.
Bah oui. Bien sûr, quand on fait 15 cigales, on pourrait plier l'affaire en 3 Zénith ou en un Bercy. Mais ça me plaît plus, ça n'aurait pas de sens. Et ça, en termes de plaisir pour moi, et en termes de plaisir à rejouer un spectacle, en termes de proposition aussi esthétique. C'est-à-dire, si vous faites un Zénith, il y a forcément le premier rang, il y a des petites barrières, il y a 3 vigiles en bas qui surveillent, qu'il n'y a personne qui monte sur scène. Enfin, vous voyez, c'est une autre logique. Donc, bon, c'est des choses comme ça, mais je vous réponds comme ça parce que vous me posez la question. Moi, de moi-même, je ne parle jamais de ces choses-là.
Il paraît que vous avez dit, je me méfie hein, de ce que colportent les journalistes, mais j'essaie de faire des chansons qui améliorent nos vies.
Je pense qu'en général les chansons tentent d'être des améliorations de la vie. C'est pas qu'elles améliorent nos vies, c'est qu'elles sont, on retranscrit la vie mais un peu améliorée. Ça veut pas dire qu'elles font que la vie des gens devient meilleure. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien
c'est
sûr.
Juste que c'est une sorte de, voilà, il y a une sorte de pureté dans les chansons. On essaye ça de évidemment que
c'est comme
que,
dans les films de Truffaut.
Exactement. C'est cette
parce
idée qu'il
n'y
a pas d'embouteillage,
voilà.
Que ça file droit et que c'est une sorte de sélection d'un moment qui est un peu plus fort que les autres.
Il y a le montage parfait.
Exactement.
Il y a pas de temps mort. Il y a la bonne musique, la
c'est
bonne
une
lumière,
organisation
le bon
des
cadre.
Ouais.
Hein ? Vincent Delerme, j'aimerais qu'on se quitte sur l'image, le moment ou les vibrations. De ce que fut pour vous le plus beau matin du monde, votre plus beau matin du monde à vous, vous pouvez nous le raconter.
Alors, j'ai pas un matin qui s'impose, mais je sais que je me souviens d'un moment qui est très précis, qui était justement, on avait affaire à ce moment-là, 4 Olympias, qui était un truc qui représentait beaucoup pour moi. Et c'est sur cette série-là, tous les soirs, il y avait Jean Rochefort qui venait chanter avec nous, qui était venu les 4 soirs. On faisait Félicie aussi, il commençait dans le noir. Et là, il y avait une sorte d'ovation incroyable. Et donc, le 4e jour, je me suis réveillé en sachant, bah, voilà, c'était bon. Les 3 premiers soirs, c'était super bien passé. Il n'y avait plus qu'à prendre le plaisir. Tout était installé à la salle. Et voilà, je me souviens d'être parti à l'Olympia à pied comme ça en début d'après-midi et de me dire, mais quel rêve, quoi. Une fois que tout est en place, qu'on sait que ça va marcher, que tout le monde est heureux, que c'est la fin de tournée, c'est des moments qui sont très, très pleins. Et puis ça me faisait plaisir aussi de trouver un souvenir, évidemment, qui était lié à Jean pour vous répondre.
Jean qui traverse votre film, votre premier film, qui a pour titre « Je ne sais pas si c'est tout le monde » et qui est projeté tous les dimanches matins au cinéma des cinéastes à Paris. Alors je rappelle que l'album, le 7e qui vient de sortir, a pour titre « Panorama » et vous chantez les pépites qu'il compose à La Cigale à Paris jusqu'au 7 décembre, puis en tournée dans toute la France. Merci infiniment, Vincent Delerme.
Merci à vous, Isabelle, avec plaisir.
À bientôt.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet revient bien sûr le week-end prochain avec de nouveaux invités. Il y aura le réalisateur de « Belle et Sébastien » et plus récemment « Donne-moi des ailes », Nicolas Vanier, mais aussi Jean-Paul et Raphaël Antoven, père et fils.